Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses familles prennent le temps de cuisiner ensemble. C'est même devenu l'un de leurs loisirs préférés, une activité ludique et pédagogique qui renforce les liens. Apprendre des gestes et des tours de main transmis de longue date, refaire des plats issus d'un vieux carnet de recettes, découvrir de nouvelles saveurs, goûter des ingrédients plus ou moins familiers, mettre la main à la pâte avec d'autres membres de sa famille, des grands-parents, des oncles ou tantes, permet également de transmettre et de découvrir une histoire familiale sous un autre jour. Mais comme se le demande la chercheuse Sandrine Monnery-Patrice, comment sauvegarder la singularité d'une histoire familiale, d'un savoir-faire qui fait la différence, la personnalité, la signature d'un plat, alors que l'offre de produits préparés et accessibles donne la possibilité de ne pas cuisiner. Nos experts vous donneront peut-être l'envie de cuisiner avec vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, sans oublier les nouveaux pères hein, qui réinvestissent la cuisine et sont aussi des acteurs de cette transmission. Racontez-nous ce matin les anecdotes familiales de transmission culinaire. Dites-nous pourquoi cuisiner en famille est devenu un vecteur d'émotion et de sens. 01 45 24 7000, sans oublier les notes vocales hein, sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Aujourd'hui, je vais vous livrer une petite recette un peu particulière pour tous les parents qui font juste ce qu'ils peuvent.
Et je crois que vous évoquerez le goût pour la cervelle préparée par votre père.
Mince, vous l'avez
dit. Et que
vous
transmettez à vos enfants.
Alors, non, je ne leur transmets pas, ils ne veulent pas m'entendre parler, mais moi, je me la fais cuisiner
dimanche. Je les comprends, vos enfants. Allez, bienvenue dans Grand-mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Pour faire ce gâteau, Elisabeth, il faut du lait, des œufs, de la farine, du sucre, du beurre,
du chocolat,
du cacao en poudre et de la levure. Et puis bien sûr la pincée de sel, parce que tu sais qu'il faut toujours une pincée de sel pour donner du goût au gâteau. Nous allons séparer le blanc et le jaune des œufs. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Attends, alors vite, tu mets ton jaune ici, et tu sais qu'il va se passer une chose horrible, c'est que si nous n'enlevons pas tout de suite ce jaune, eh bien les blancs ne vont pas monter en neige. Non, ça marche. Alors là, un grand bravo.
Et quand vous étiez enfant, vous avez peut-être appris à cuisiner et à pâtisser avec Michel Oliver grâce à ses émissions et à ses livres. Bonjour Perla Sèvran-Schreiber.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour,
journaliste, Ali. Essayiste, cofondatrice du mensuel Psychologie Magazine et vous venez de publier aux éditions La Martinière mes 77 secrets de vie, grande cuisinière devant l'éternel. Vous nous avez apporté des gâteaux et des brioches. Tout le monde s'empiffre depuis tout à l'heure. Bonjour Keda Black.
Bonjour.
Vous êtes autrice de livres de cuisine et vous avez publié chez First « Je cuisine pour mes petits-enfants » et aux éditions du Chêne, un classique « Tante Marie, la véritable cuisine familiale » revue et augmentée par vos soins. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du Père Joseph à Ruelle Malmaison dans quelques mois et intervenant régulier dans cette émission. Bonjour Baptiste Desmontiers.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes journaliste, vous avez collaboré à Complément d'enquête et à Quotidien et vous lancez dans une nouvelle aventure, le magazine en ligne Cool Mag, Cool avec un K. À qui s'adresse votre magazine en quelques mots, Baptiste?
Alors le Cool Mag, ça s'adresse à tous les hommes et à tous les pères et on parle bien sûr de cuisine.
Et oui, on y retrouve une rubrique cuisine très intéressante. Alors Perla Sèvran-Schreiber, pour vous, transmettre est devenu, vous l'écrivez, un chemin de vie. Mais vous apprenez également de vos petits-enfants hein, dans cette transmission. C'est une transmission à double sens. Hein.
Oui, c'est une transmission à double sens. Et aujourd'hui, même dans le domaine culinaire, c'est une transmission à double sens. Et ça, c'est le couronnement de ma vie, parce que la vieille dame de 78 ans que je suis aujourd'hui a démarré très tôt, puisque mon premier petit-fils a aujourd'hui 31 ans, qu'il a fait l'école hôtelière de Lausanne et qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre.
Qu'est-ce qu'il vous apprend, tiens? Qu'est-ce qu'il vous apprend?
Eh bien, lui, il a travaillé vraiment, ce que je n'ai évidemment jamais fait, dans des cuisines de grands chefs, et notamment japonais. Et ce que j'admire le plus, c'est la découpe. Mmh. Alors, il tient un couteau comme jamais je ne parviendrai à le tenir. Et d'ailleurs, la taille du couteau déjà m'intimide. Donc là, je suis nulle en découpage. Mais je crois que je vais aller faire prendre un cours de découpage parce que c'est trop joli. Le résultat est merveilleux.
Et vous êtes très forte en brioche, je vous rassure, Perla. Vous êtes issue d'une culture méditerranéenne, vous êtes née au Maroc, vous avez grandi dans une famille modeste. Vous conservez un souvenir très très fort de votre enfance grâce à cette cuisine familiale, grâce à cette transmission de la cuisine à travers votre mère et votre grand-mère et vos tantes.
Oui, toute la famille, évidemment, le rôle de la famille et la place que les enfants occupent là-dedans est très singulière, il faut le reconnaître, dans ces civilisations orientales, et notamment dans les familles modestes, parce que à table, nous étions riches. Ma mère était une merveilleuse cuisinière et pâtissière, et la générosité aussi qui est due à ces cultures était là, et nous avions tous les jours les parfums de brioche, de madeleine et de cervelle. Je confirme que c'est délicieux avec plein d'ail, du poivron et du poivron rouge et de la tomate. Voilà.
Et vous vous souvenez avec précision des saveurs de cette enfance, de ces images dans la cuisine familiale, cuisine des mères essentiellement, Perla?
C'est très précisément, d'autant que je les ai humées, respirées, davantage que regardées. Parce que nous avions une toute petite maison et une toute petite cuisine. Il n'y avait ni gazinière, ni rien du tout. Donc ma mère cuisinait avec des petits braseros qui étaient posés à terre. Il y en avait 5 et la cuisine était saturée. Et elle a passé sa vie à me dire « Ne mets pas les pieds, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici ». Donc je me contentais de respirer ces merveilles. Et j'ai essayé non pas de les refaire, parce que très sincèrement, je ne crois pas que ce soit possible. Et puis on s'exprime toujours à partir de la vie que nous avons aussi. Aujourd'hui, ma cuisine est différente de celle de ma mère, mais la place qu'elle occupe dans ma vie est exactement la même que celle de ma mère.
Et est-ce qu'il y a des gestes qui vous ont marqué? Moi, à titre personnel, quand ma grand-mère maternelle faisait du pain, je me souviens des coups de poing dans la pâte. C'est quelque chose qui m'a, ou avec le creux de la main, c'est quelque chose qui est resté dans mon imaginaire. Et vous, est-ce qu'il y a des gestes comme ça?
Par exemple, aujourd'hui, moi, j'utilise évidemment une spatule vider correctement, non, une marise, pour vider correctement mon bol. Elle faisait ça avec la tranche de sa main droite, puis elle essuyait sa main sur le bord du bol, et croyez-moi, il était nickel, il n'avait même pas besoin d'être lavé.
Grégory Cohen.
Moi, j'ai des souvenirs incroyables alors ça commence par mon arrière-grand-mère, Mémé Camille, qui avait 7 enfants. Donc, dont ma grand-mère, imaginez le nombre de petits-enfants, et elle vivait dans un petit 50 mètres carrés, mais en rez-de-chaussée. Et du coup, ça changeait tout, parce qu'il y avait une partie de la famille qui mangeait dehors, dans la rue, l'autre partie qui mangeait à l'intérieur de la cour, et elle, quand elle faisait le couscous, puisque c'était un plat très familial et vraiment facile à partager... Je la voyais, en fait, avec ce geste, avec sa main, qu'elle humidifiait un petit peu. Et elle récupérait les graines et elle égrenait le couscous comme ça et elle continuait à nous parler comme si rien n'était. Et moi, je regardais ces espèces de graines de couscous qui tombaient en flocons dans le plat et c'était absolument exceptionnel.
Mais vous êtes un grand chef aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de ces souvenirs d'enfance? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la simplicité d'exécution, la facilité, la convivialité, en fait. En cuisine, quand on fait ses classes, on a une espèce de côté un peu dogmatique avec les sauces par grosses thématiques. Et en fait, la cuisine familiale, c'est pas une cuisine par thématique de cuisson ou de production. C'est une cuisine tout venant. Et cette cuisine tout venant, elle est riche, elle est naturelle. Et c'est cette cuisine-là qui aujourd'hui m'a marqué parce que du coup, dans ma cuisine, on essaie de la retrouver aussi, sans que ce soit trop dogmatique pour qu'on arrive à avoir un plat qui soit un plat généreux.
Et rien n'est écrit, tout est oral, tout est dans la tête, les proportions, les recettes, c'est inouï.
Mais il existe toutefois quand même des carnets de cuisine, Kéda Black, ça se transmet de famille en famille.
Oui, ma grand-mère qui était aussi une très bonne cuisinière, en tout cas, enfin mes deux grand-mères, mais surtout ma grand-mère maternelle d'origine espagnole, qui conservait, qui découpait quand même pas mal dans les magazines et qui avait son petit classeur auquel elle se référait. Mais Bon, voilà, mais...
Baptiste Desmontiers, on sait que dans les familles issues de la noblesse, la transmission des valeurs, de l'histoire familiale est fondamentale. Est-ce que ça passe aussi par la cuisine? Est-ce que dans votre famille, on s'est transmis des recettes de génération en génération? Baptiste Desmontiers.
Oui, alors, mais paradoxalement, Ali, vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Paradoxalement, moi, ça vient du côté de ma mère, donc ça n'a rien à voir avec la noblesse, mais effectivement, ma mère, et d'ailleurs, j'ai son livre de cuisine manuscrit à la maison, elle me l'a donné, elle me l'a transmis.
Qu'est-ce que vous a transmis?
Moi, ma petite souvenir, mon souvenir d'enfance, pour moi, c'est la blanquette de veau qu'on faisait ensemble et le plat qui se transforme à la dernière minute quand on rajoute la crème et le citron et en fait, il change de goût. Et ça, je l'ai revécu en le faisant avec mes enfants et j'ai eu un espèce de flash comme ça. Je me suis dit, mais ça, c'est effectivement, j'avais un souvenir. On parle de la Madeleine de Proust, ben c'était ça, quoi. C'est tout d'un coup, je me suis revu avec ma mère. On habitait dans les Yvelines, je me suis revu à 8-9 ans et j'ai revu ce moment en le refaisant avec mes filles. Donc oui, quelque part, il y a une transmission.
Pourquoi c'est important de transmettre cette blanquette de veau à vos filles?
C'est important de transmettre le goût de cette blanquette de veau, déjà parce que moi j'aime bien la manger et que la plupart du temps je déjeune avec, je dîne avec mes enfants. Et surtout parce que effectivement, leur donner le goût de la cuisine, c'est leur donner la curiosité de goûter et de sortir des plats un peu standardisés.
Kéda Black, on va vous reprendre tout de suite, Baptiste Desmontiers. Kéda Black, vous rééditez un classique des livres de cuisine, hein, Tante Marie. Nous avons le souvenir d'un livre de cuisine qui se transmet de famille en famille, longtemps de mère en fille. Hein, le Ginette Mathieu, le Françoise Bernard, le Tante Marie.
Oui, chaque famille a sa Bible. Qui est toujours utile, mais qui ne fait pas tout. Enfin, effectivement, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont pas forcément écrites, qui se disent.
Qui sont de l'ordre de l'irrationnel.
Ouais. Presque. En fait, je pense qu'il y a surtout, il y a aussi des ruptures de transmission. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on éprouve le besoin de faire des livres. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris dans les livres, alors que j'ai une mère et une grand-mère qui cuisinaient très bien. Ma mère a appris à cuisiner avec des livres, alors que sa mère était une cuisinière formidable. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on éprouve le besoin de compiler, d'avoir des choses écrites. Mais je pense que la transmission se fait aussi par, ce qu'on disait, par le souvenir des goûts qui existaient dans l'enfance.
Bonjour Marie-Ange, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous avez créé une page Facebook pour votre maman, votre mère, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, pendant le premier confinement, mes parents, comme beaucoup d'autres, ont pas très bien vécu le fait d'être séparés de la famille. Et je me suis dit, on va les occuper, les parents. Donc, mon papa, en dégustant les plats de ma maman, c'était plutôt pas mal. Et en fait, voilà, j'ai créé cette page. Ma maman a pu partager en fait ses recettes de famille et surtout ses anecdotes, parce qu'elle aime beaucoup écrire. Donc, on a en fait une trace maintenant de toutes ces anecdotes autour de la cuisine, parce qu'on est une famille de gourmands. Et c'est vrai que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, lui réclamaient sans cesse la recette de sa quiche, la recette de sa soupe aux orties, la recette, nous y compris. Et donc en fait, elle s'est mise à faire des photos et des petits articles sur sa page. Et puis, c'en est venu à ce que mon grand frère publie, enfin, une auto-édition familiale, on va dire, de ses recettes qui tiennent maintenant sur 3 volumes.
Oui.
Parce que elle s'est vraiment piquée au jeu et elle continue, malgré le fait qu'on soit plus confinés, à partager ses recettes sur sa page La cuisine de la licorne sur Facebook.
Gonelle Boulet.
Oui, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que je pense que la transmission, c'est aussi non pas transmettre des recettes telles quelles, mais transmettre le désir et l'émotion. Mmh. C'est-à-dire qu'on ressent dans tout ce qu'on dit que pourquoi la blanquette de veau, pourquoi tout ça, c'est que au fond, il y a de l'émotion. Il y a l'émotion du temps qui est passé, il y a l'émotion de tous ces moments familiaux partagés ensemble. Et en fait, je pense effectivement qu'en ce moment, on se dit que la transmission, c'est forcément faire avec. Mais non, je pense que quand on disait tout à l'heure, on me disait de partir de la cuisine, allez hop, ce que ça crée, c'est le mystère, le désir. Et je pense que c'est ça aussi la transmission, c'est de, à son tour, pouvoir se dire, moi aussi, je vais pouvoir investir cet espace du mystère, de faire plaisir aux autres, de transmettre de l'émotion aux autres.
Perla Savant-Schreiber.
Mais ma joie, c'est de voir que, chez moi d'ailleurs, c'est les petits-enfants, les garçons, qui s'y sont mis beaucoup plus que les filles. Hein. J'ai 8 petits-enfants et je n'ai que 2 petites filles. Elles sont plus en retard que leurs petits-fils. Mais il y a surtout aussi le fait que la cuisine de mes petits-enfants est radicalement différente de la mienne. Et c'est ça qui est merveilleux. On cuisine avec la vie qu'on vit, avec les rencontres qu'on fait, avec ses propres saveurs. Moi, j'ai eu la chance de voyager quand même beaucoup, de rencontrer beaucoup de grands chefs. Donc, à partir de tout ça, on fabrique son propre alphabet, on le transmet tel que, mais évidemment qu'il se transforme, et c'est ça qui est merveilleux.
Marie-Ange, quelle est la recette préférée que vous avez envie de transmettre, vous aussi, à vos enfants ?
Bah, moi, ce serait effectivement la soupe aux orties de ma maman, en fait. C'est quelque chose de très simple, mais qui a marqué toute mon enfance et que je retrouve avec plaisir et que je n'arrive, malgré le fait d'avoir la recette, je n'arrive pas à la faire aussi bien que...
C'est le grand mystère. C'est le grand mystère, Marie-Ange. Merci beaucoup de nous avoir appelés au standard. Alors, Grégory Cohen, vous cuisinez beaucoup avec vos enfants. Quels sont vos conseils de chef fondamentaux quand on souhaite se lancer avec eux? Conseil de sécurité d'abord peut-être.
Conseil de sécurité, attention, c'est ça. Alors ça dépend de l'âge de l'enfant évidemment, mais quand on est avec des petits enfants, faites-les travailler avec des petits couteaux, des couteaux qui sont pas tranchants, qui sont juste à dents, pas très dangereux, mais faites-les participer évidemment. Ne les faites pas manipuler de l'eau brûlante, de l'huile brûlante. Mmh. Ça va tellement vite une casserole. Mmh. Faites attention quand vous travaillez avec votre casserole à ne pas mettre la poignée de la casserole vers le passage, mais plutôt vers l'intérieur. De manière à ce que y ait pas un petit bras qui se lève et qui fasse renverser tout ça. Enfin bref, des conseils assez naturels sur les objets tranchants et les objets brûlants.
Perla ?
Il me semble que ce qui est important, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que il y a aussi le rôle des légendes qu'on fabrique pour transmettre aux enfants le goût de la cuisine. Moi, j'ai eu, comme toutes les grand-mères, je me suis cognée à un mur pour leur faire bouffer des légumes. Et puis un jour, ils m'ont traînée chez Disney, ce qui a été pour moi un cauchemar absolu. Et je me suis dit, il faut que je rapporte quelque chose de cet endroit. Rentrant de là, j'ai inventé une soupe que j'ai appelée la soupe Disney et dont je leur ai dit qu'ils n'auraient jamais la recette sauf à leur mariage. Aujourd'hui, cette soupe... S'ils savaient ce qu'il y a dedans, ils me tueraient, littéralement. Et en Provence, par 40 degrés, ils me réclament la soupe Disney. Ils ont 30 ans. La soupe Disney, chaude.
Baptiste Desmontiers.
Oui, moi, avant de transmettre la cuisine, j'ai envie de leur transmettre le goût. Et ça passe par des choses simples. Et donc, moi, par exemple, en ce moment, je leur fais des soupes poires aux pommes de terre. J'ai la chance d'aller au marché, donc on va acheter les ingrédients ensemble. Et elles se rendent compte que c'est très simple. Elles sont souvent, j'ai 2 filles, donc 4 et 9 ans, et elles sont souvent très surprises du résultat. Donc, en fait, je pense que ça passe par le goût. Et ensuite, elles auront, j'espère, envie de cuisiner, mais elles me demandent déjà beaucoup de cuisiner.
Alors, cuisiner avec les enfants permet une vraie prise de conscience en les associant au processus du début à la fin. D'où viennent les produits? Sont-ils de saison? Sont-ils produits localement? On s'informe aussi sur les étiquettes, Grégory Cohen.
Ah, c'est essentiel. Déjà, sur les étiquettes, un petit conseil très rapide. Regardez l'étiquette. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'achetez pas. C'est simple. Au moins...
Maltodextrine.
Les E492, les E728. Ouais. Les gommes, les xanthiacs, enfin bref, tous ces trucs-là qu'on ne connaît absolument pas, on laisse tomber. Et puis après, on va avec eux le plus souvent sur les marchés, idéalement. Ça leur apprend les saisons. Du coup, ils vont voir les produits non transformés parce qu'en fait, un enfant passe beaucoup de temps en dehors de la maison, souvent à l'école aussi, et donc à la cantine, et il voit que des produits transformés. Donc, il voit pas le processus de transformation de ces produits, donc il sait pas ce qu'il y a dedans, il sait qu'à peu près ça peut lui plaire ou ça peut pas lui plaire, mais quand on l'investit dedans, ben d'un seul coup tout change. Parce qu'il découvre ses goûts, il découvre cette transformation, qu'une carotte crue, bah, ça a tel goût, qu'une carotte cuite, ça a tel autre goût, qu'une carotte en purée, ça a encore tel autre goût, qu'une carotte mise dans une petite sauce tomate, bah, ça peut encore avoir tel autre goût, et comme il est dedans, et ben, d'un seul coup, la carotte, ça devient son ami.
Kida Black.
Oui, c'est tout à fait comme ça que ça marche. Et sur les légumes, moi, je me souviens de plats, enfin de la ratatouille et des farcis de ma grand-mère que j'aimais pas en fait. Enfin, j'aimais pas ce goût des légumes cuits. Et mais le fait de les avoir goûtés, de les avoir sentis, j'ai eu un moment adulte où je me suis dit j'ai eu envie de ça et j'ai eu envie de retrouver ce goût et j'ai regoûté. Et là, je me suis aperçue qu'en fait j'aimais ça. Donc, ce qui montre que quelque chose qu'on n'aime pas enfant, si on l'a senti et éprouvé, ça a quand même fait son effet.
Bonjour Camille Labro.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à M, le magazine du Monde, et vous êtes fondatrice de l'école comestible. C'est Perla Savant-Schreiber qui tenait absolument que vous interveniez. Présentez-nous cette école comestible parrainée par des chefs comme Michel Guérard, Olivier Relinger ou Alice Waters. Expliquez-nous un petit peu la philosophie de cette école comestible et pourquoi ça peut inspirer les parents, les grands-parents à la maison.
Alors l'école comestible, c'est une association qu'on a fondée il y a 2 ans. Et la philosophie, c'est par rapport à tout ce que vous venez de dire, ça recoupe vraiment l'idée, c'est de faire des programmes dans les écoles, d'intervenir auprès des enfants et auprès des enseignants dans les écoles pour faire rentrer en fait l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. La philosophie, c'est vraiment de la terre à l'assiette. Donc on fait à la fois avec les enfants des potagers, mais aussi des ateliers culinaires.
Et pour vous, Camille Labro, éduquer les enfants, c'est aussi leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, des autres, de leur environnement, tout en se régalant.
C'est ça. On accorde une importance majeure au plaisir, au goût, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, parce que sans plaisir de manger, les enfants mangent pas, c'est tout simple. Donc il faut notre méthodologie, c'est de leur faire faire eux-mêmes pour qu'ils découvrent les produits bruts, qu'ils apprennent à les transformer et qu'ils s'en régalent. Et c'est avec ça, avec tout ce process, qui redécouvre en fait le plaisir de manger un légume, de la terre à l'assiette, et de le partager aussi.
Perla Savant-Schreiber.
Il y en a combien aujourd'hui ? Bonjour Camille, il y en a combien d'enfants aujourd'hui qui ont bénéficié de cette formation ?
Alors aujourd'hui, on intervient dans une quinzaine d'écoles en Ile-de-France. On a démarré une antenne à Marseille et on a sensibilisé à ce jour environ 1500 enfants sur l'année scolaire. Notre objectif là, d'ici la fin de l'année scolaire, c'est le double. Et ça ne concerne que les enfants qui font directement le programme dans les écoles. Après, ils en parlent à leurs parents, à leurs grands-parents, on l'espère. On refait des recettes ensemble, on leur transmet les recettes évidemment. Et donc ils vont très souvent, on a souvent des retours des familles qui nous disent qu'ils ont refait les recettes du pesto, les recettes des boulettes végétales ou des pancakes.
Vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité, Camille.
Baptiste Desmontiers.
Oui, moi je trouve que c'est une super initiative et il faut effectivement transmettre et initier les enfants. Mais il y a aussi peut-être quelque chose à la maison. On peut pas tout mettre sur le dos de l'école. Moi j'ai plein de pères autour de moi qui osent pas cuisiner parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas faire. Donc nous sur Coolmag, on a pris un pari qui est aussi celui de donner des recettes très simples pour les pères à faire avec les enfants. Et il y a effectivement une éducation du côté de l'école, mais il y a aussi beaucoup de choses à transmettre à la maison. Et parfois, le frein vient du fait que on ne se sent pas capable. Alors qu'en fait, cuisiner, c'est parfois très simple. Je suis pas un grand cuisinier. Et les recettes qu'on donne, nous, sur Coolmag, sont des recettes qui sont à la portée de tous les pères, y compris ceux qui n'ont pas le temps de faire beaucoup de courses.
Et j'ai fait votre recette de nuggets de poulet et c'est nettement meilleur que ceux achetés dans le commerce. Grégory Ricohen.
Oui. Non, c'est essentiel de sensibiliser les enfants. Moi, j'ai été parrain en 2020 et en 2021 de la semaine du goût. On a touché plus de 200 000 enfants dans toute la France avec tous les professionnels des métiers de bouche qui se sont associés. Il y a eu 10 000 enseignants qui se sont inscrits. C'était juste absolument incroyable. Et quand on arrive dans les écoles et qu'on montre les produits aux enfants, au départ, ils font beurre, qu'est-ce que c'est, machin, etc. Puis après, on les fait tourner, ils commencent à les sentir, ils commencent à les goûter. Il y a un espèce d'apprentissage qui se fait. Et ça développe immédiatement quelque chose qui est inné en eux, qui est la curiosité. Et cette curiosité, elle amène à tout.
Kéda Black.
Oui, je crois qu'il y a aussi l'enjeu, au-delà de faire la cuisine, il y a aussi l'enjeu des repas, du fait de partager un repas autour d'une table, etc. Que c'est un moment pas si facile toujours à maintenir, et c'est aussi sur ça que ça se joue, en fait, parce que ce repas est un moment social, et meilleur c'est, mieux ça va se passer.
Exactement. Merci beaucoup Camille Labro. On peut retrouver toutes les informations sur l'école comestible sur votre site. Merci d'être intervenu. Allez, on continue à explorer le plaisir de cuisiner en famille. ligne. Ce sera juste après avoir écouté la recette pour un cake d'amour. La recette du cake d'amour par Anne Germain.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h34 et on s'intéresse ce matin à la transmission de la cuisine au sein des familles. Nous attendons vos témoignages au 01 45 24 7000. Écoutons notre consoeur Eva Bétan, c'était au micro de Fabienne Sintès.
Mais moi j'ai refait je ne sais pas combien de fois le cake aux noix. Mmh. On l'a fait à plusieurs, entre cousins, parce que ma mère et ma tante faisaient le même. Et on dit c'est à peu près ça, c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être encore ça. Et parce qu'en fait, on veut retrouver leur sourire.
Mais oui, et est-ce que c'est pas mieux quand on trouve pas le goût, Eva, parce que justement on le cherche, on recommence
On recommence, et parce qu'on veut se retrouver dans un moment de notre vie, et c'est valable pour tout le monde.
Perla Solange-Schreiber, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver le même goût d'enfance, même quand on a mis la main à la pâte avec ses parents, grands-parents, oncles et tantes? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi c'est pas pareil?
Pour une raison simple, c'est que s'il suffisait de savoir lire pour savoir cuisiner, parfait, on lit une recette et on la fait. Mais pas du tout. Il suffit pas. Il y a ce que certains chefs appellent la main, il y a ce que moi j'appelle l'âme et le cœur, et qui est un ingrédient absolument impossible à peser ou quoi que ce soit, ou à mesurer, et qui fait la différence. On fait avec son cœur, on fait avec son histoire, on fait avec ce qu'on est, et heureusement, ça évolue d'une génération à l'autre.
Qui est Dabla que vous publiez « Je cuisine pour mes petits-enfants »
C'est ça, oui.
Sur cette question.
Je ne suis pas grand-mère.
Pas encore.
je me disais, oui.
Sur cette question-là, le fait qu'on n'arrive pas à retrouver le même goût d'enfance.
Bah, je crois que le souvenir aussi est enrichi d'un contexte. Donc peut-être que même si on goûtait exactement la même chose, si c'était possible, ça aurait sans doute pas le même goût.
Alors, cuisiner en famille, avec ses enfants, petits-enfants, c'est aussi transmettre des savoir-faire. Hein. Je cite la chercheuse à l'INRA, Sandrine Monnery-Patrice. Pour les plus petits, la transmission passe par l'observation, l'identification des odeurs, le son du fouet, le crépitement au fond de la cocotte, puis par l'implication physique en mettant la main à la pâte. Et hors antenne, Gwenaëlle Boulay, vous me faisiez une réflexion très intéressante sur, il faut les laisser autonomes aussi les enfants, il faut aussi les laisser...
Oui, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis donc rédaction chef de magazine jeunesse, dont Pomme d'Api, qui est née dans les années donc en 65. Et c'est vrai que je regardais l'autre jour dans les archives et je me rendais compte que dans les années 65-70, on laissait faire aux enfants, parce qu'il y avait des recettes de cuisine photographiées, vous savez, étape par étape, et on laissait faire aux enfants des choses assez incroyables, des poissons en papillote, des choses farcies, avec des gestes, du couteau, puis en termes de bricolage, on leur mettait des scies dans la main à 5-6 ans. Maintenant, dès qu'on sort une petite bougie, on met attention, il faut pas se brûler, un couteau, attention, il faut pas se couper. Donc je pense qu'on a même perdu en autonomisation des enfants parce qu'on veut les protéger un peu de tout danger, quoi.
Grégory Cohen.
Oui, c'est la surprofondeur. On est tous devenus un petit peu maman louve. Hein. On essaie de leur éviter d'apprendre
papa
par eux-mêmes
de
se faire mal de papa poule aussi. Et puis, ouais, cela dit, la maman louve avec le papa poule, je pense que ça peut faire un petit carnage quand même. Et en réalité. Oui, évidemment, mais c'est notre faute à nous. On n'a pas envie que nos enfants se brûlent, on n'a pas envie qu'ils se passent mal, on n'a pas envie qu'ils se coupent. Et pourtant, l'apprentissage, il est là. C'est-à-dire que si on leur dit que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille, tant qu'ils se seront pas un peu brûlés ou un peu mouillés, un peu, hein, vraiment, un tout petit peu même, ils n'auront pas très bien compris, ce sera abstrait.
Bonjour Marie-Josée, bienvenue.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ce matin ?
Eh bien, je viens de rentrer des États-Unis pour fêter Thanksgiving avec mon fils, sa famille, donc c'est-à-dire 4 petites filles, et j'y suis partie avec une tasse à café de mesure de chez nous, parce que j'ai hérité de ma mère une recette où on mesurait tout avec la tasse à café.
C'est génial.
Et là-bas, les tasses à café, c'est un peu gros, hein, les mugs, c'est voilà. Donc j'ai apporté ma tasse. Et on avait déjà fait plusieurs fois cette recette à travers les écrans quand on ne pouvait pas se joindre. Et donc j'ai obtenu qu'une seule de mes petites filles la fasse avec moi, parce que quand elles s'y mettent à 4, ça fait des batailles de farine, machin, tout ça, voire de couteaux. Donc on a limité les choses, et pour elles ça a été un exercice. Je pense que c'est la première fois que cette recette a été écrite.
Qu'est-ce que vous tenez à transmettre à vos petits-enfants, Marie-Josée ? Qu'est-ce qui est le plus fondamental pour vous ?
À travers cela, c'est la recette bretonne de ma mère, qu'il a bien sûr hérité de la sienne et je ne sais où, et surtout, pratiquer la langue voir les différences entre nos deux civilisations, parce que trouver les ingrédients, c'est tout un problème, et il faut transférer aussi les températures. Les températures. Et le plus difficile, ça a été la levure. La levure chimique, c'est difficile. On a fait tout à peu près, et à force d'ouvrir et de fermer le four, je pense que ça n'a pas levé correctement. Mais au moins, ma petite fille a écrit la recette en entier, en français.
Et ce qui est formidable, c'est quand même la conversation qui se crée à ce moment-là, dans ce moment privilégié, Marie-Josée.
Tout à fait. Et puis la transmission des recettes, je vous dis, la première fois qu'elle a été écrite pour moi, elle était toujours transmise oralement.
Et vous, Perla, ces moments-là avec les petits-enfants, quand on cuisine, c'est l'occasion de transmettre des petits secrets de vie aussi.
Non, mais moi, j'aime bien les écouter, surtout. C'est là que j'apprends le plus de choses sur eux. Alors, je ne crois pas avoir transmis vraiment ce que j'ai transmis et ce dont, j'avoue, je suis le plus fière et le plus émue, c'est la joie à table. Ouais. Ça oui, et ça, je crois que ça leur restera, et ça a fabriqué leurs souvenirs d'enfance.
Kieda Black.
Oui, c'était plutôt sur ce qui se disait avant, sur le fait qu'il faut peut-être qu'une recette soit écrite, apparaisse dans un livre aussi pour qu'elle puisse voyager et évoluer, parce que il y a toujours ce côté ah non, c'est pas comme ça qu'on fait tel truc, etc. Mais bon, les recettes sont faites pour être interprétées, adaptées, etc. Et c'est aussi parce qu'elles sont écrites et qu'elles voyagent et qu'elles peuvent se modifier et vivre en fait.
Baptiste Desmontiers, cofondateur du magazine en ligne Cool Mag.
Ouais, cuisiner avec les enfants, pour moi, c'est transmettre des secrets. J'en ai pas énormément à leur donner encore. En revanche, c'est passer un super moment ensemble. Et nous, on a fait un constat. Et donc, sur Cool Mag, on met jamais de durée de recette. Oui. Parce que cuisiner avec des enfants, c'est introduire un nouveau paramètre. Et souvent, quand vous prenez une recette sur Internet, on vous dit temps de préparation 20 minutes, temps de cuisson 20 minutes. Mais il y a jamais le temps de rangement derrière. Or, quand on cuisine avec des enfants, il y en a partout. Mais bon, c'est aussi du coup. Donc, nous, on met pas de durée de préparation parce qu'on sait qu'il y a ce paramètre. Mais en fait, oui, c'est surtout partager des très chouettes moments. Et même si on a peur qu'ils se blessent, on fait attention, etc. Mais on rigole. Moi, je rigole beaucoup avec mes filles. Donc, c'est vraiment, on le partage, en fait.
Merci beaucoup, Marie-Josée, de nous avoir appelé. Je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Yassir.
Salut, moi c'est Yassir, j'ai 29 ans et j'ai un fils qui a 2 ans et demi qui commence à parler et je commence à cuisiner avec lui les plats de mes origines. Mes grands-parents étaient marocains et pour moi c'est un petit peu un moyen de faire rencontrer ses arrière grands-parents à mon fils indirectement et de m'amuser avec lui et bien sûr de nous régaler. Bonne journée France Inter.
Père Lassonde-Schreiber, c'est joli hein, cette transmission.
Mais c'est vrai que c'est très joli. En fait, c'est très bizarre, mais ce qu'on transmet, ça m'est révélé par mes petits-enfants, après, quand ils m'en parlent maintenant. Et je n'ai pas eu le sentiment que c'était ça que je voulais transmettre. Et ce qu'ils ont récolté, eux, au cours de toutes ces années, ce sont des choses complètement magiques et qui ont à voir non seulement dans leur lien à moi, dans leur lien entre eux, mais aussi dans le lien aux saveurs.
Alors, en discutant avec vous, me reviennent les odeurs du gratin de macaroni de ma grand-mère maternelle qui cuisait sur la gazinière avec un ustensile spécial. Keda Black, les pasta parties, c'est assez génial. Hein, quand on veut cuisiner en famille, on fait des pâtes maison avec de la farine, des œufs, un peu d'eau, on met la main à la pâte, c'est assez formidable. Hein.
Bah oui, puis c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Enfin, si en tout cas, si on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça, c'est un bon. La pâte à pâte faite soi-même, ensuite passée dans le laminoir ou on peut aussi l'étaler au rouleau. Ça, c'est très. Enfin, le fait de tourner la manivelle, etc. c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis c'est ça. Là, pour le coup, on a le produit brut, on a deux ingrédients et puis à la fin, on a le plat de pâte.
Investissez dans une machine. Dans un laminoir, vous allez amuser vos enfants. Grégory Cohen.
Ouais, j'ai un souvenir honteux là-dessus parce que on faisait des pâtes fraîches avec mes enfants et numéro 3 était très agitée. Elle devait avoir 2 ans et demi ou 3, j'en ai 4. Elle devait avoir 2 ans et demi, donc comme ça, je n'aime pas les prénoms non plus. Et elle devait avoir 2 ans et demi ou 3 ans. Et puis, pour sécher les pâtes, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle allonge ses bras et donc j'avais mis toutes les pâtes sur ses bras et elle est restée comme ça.
C'est honteux. Yeah. Grégory Cohen, c'est honteux.
J'ai honte, faut t'avouer à moitié pardonné.
Baptiste Desmontiers, c'est honteux, non? Vous devriez en faire un article dans votre magazine en ligne. Cool Mag.
Un article, mais en même temps, Grégory, je suis d'accord avec vous. Moi, je leur fais éplucher les pommes de terre. Donc, vous voyez, chacun c'est. Et du coup, elles se coupent pas, mais je les fais participer aux tâches ingrates. En tout cas, celles qui m'amusent.
Mais ce ne sont pas des corvées.
Ce ne sont pas des corvées. Oui, expliquez pourquoi ce ne sont pas des corvées.
Parce que ce sont vraiment des gestes méditatifs. Ensuite, ça deviendra de cette façon-là. Se concentrer sur une carotte, une pomme de terre, surtout dans cette civilisation des écrans. Vous vous rendez compte? Prendre ce temps-là et cette patience-là, à mon avis, ne serait-ce que pour ce bénéfice, c'est majeur de le faire et vous avez ô combien raison de le faire.
Le conseil zen de Père Lassonde-Schreiber. 10h44, il est l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gonelle Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
monde.
Gwenaëlle Boulay, il paraît que vous allez nous proposer une recette un peu particulière.
Et oui, comme nous parlions de cuisine aujourd'hui et que je vous avais déjà avoué dans une précédente chronique ma difficulté à cuisiner de façon sereine avec mes propres enfants, je me suis dit, tiens, et si, hop, petit pas de côté, je proposais une sorte de recette métaphorique de la parentalité. Et comme nous courons à grandes enjambées vers les fêtes de Noël, et que qui dit Noël dit amour, tendresse, comédie romantique et tout le tintouin, je m'étais dit une petite recette remplie de bons sentiments serait de saison. Et en fan inconditionnel des films de Jacques Demy, j'avais donc pensé, un peu comme vous tout à l'heure dans la programmation musicale, au fameux cake d'amour de Peau d'Âne. Alors, j'allais le fredonner, mais en fait, tout à coup, je recule un peu, vous voyez. Ah, le cake d'amour. Oh, si vous m'accompagnez, j'y vais. Mais...
Allez, Grégory Cohen.
Mettez de la farine versée dans la...
Bon, voilà.
Super.
Un très belle prouesse. Voilà.
Alors,
le cake d'amour.
C'est donc à ça que ressemble votre cake de la parentalité.
Ouais. Enfin, disons qu'au départ, tout enveloppé de cette magie de Noël qui arrive à grands pas, mon cake était en effet composé uniquement d'amour, de joie et de tendresse. Mais il se trouve qu'au moment de me mettre à écrire cette chronique, je venais tout juste de piquer une énorme gueulante sur mes enfants, à base de cris stridents dignes de... rien du tout, en fait. Et à base de « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» et d'un mélange contre-productif à souhait de « puisque c'est comme ça, punition pour tout le monde !» immédiatement suivi d'un désabusé « oh, puisque c'est comme ça, j'en fous, faites ce que vous voulez !» Voilà. Autant dire qu'à ce moment-là, je ressemblais pas des masses à Catherine Deneuve du film, et encore moins à une promotion pour l'éducation bienveillante.
Oh oui, vu comme ça, Gwenaëlle, ça ne fait plus très cake d'amour tout ça. Hein.
En effet, je vais donc vous livrer une recette qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est peut-être plus réaliste que la première. Donc à vue de nez, je dirais que le cake d'amour parental se compose de, notez bien, 6 grosses poignées d'amour. Si vous n'en avez que 2 de disponibles, c'est pas grave, mettez ce que vous avez, c'est toujours ça de prix. 4 cuillerées de thym. 3 cuillerées d'inquiétude, n'en mettez pas trop, ça peut vite tourner, faire tourner le mélange. 5 cuillerées bien bombées de fatigue. Au niveau de la patience, mettez ce que vous pouvez. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller en demander à vos voisins, ça peut aider. Une bonne dose d'imperfection. Et là, ne me dites pas que vous êtes à sec. Une petite pincée de confiance. Mais oui, au final, tout va bien se passer. On affine avec une petite dose d'humour. On l'oublie parfois, mais ça peut relever vraiment le goût du gâteau. Et si le mélange fait des grumeaux, alors arrêtez de touiller frénétiquement en stressant, laissez plutôt reposer un bon coup et demandez un peu d'aide. Il n'y a pas de honte à ne pas tout réussir tout seul. Pour finir, tel Peau d'Âne glissant son anneau pour son fiancé de prince, glissez-y ce que vous avez de plus précieux et faites un vœu. Mettez le mélange dans un plat, glissez au four pendant une bonne 20aine d'années. Pensez régulièrement à faire une pause pour regarder le gâteau gonflé et doré, parce qu'après, on regrette de ne pas l'avoir suffisamment regardé et en profiter. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Elle est bien sûr très approximative et personnelle. N'hésitez donc pas à m'envoyer la vôtre. En ce moment, entre 2 petites gueulantes, je suis vraiment preneuse.
Et j'adore.
Quel est votre mail d'ailleurs?
Mon mail, gwenaëlle.boulay@radiofrance.com.
Gwenaëlle, avec 2 L évidemment, merci. On peut écouter, réécouter, partager la chronique Ma vie de parent sur l'appli France Inter. Dans un instant, on continue à célébrer les plaisirs des transmissions de la cuisine en famille et on écoute Arlo Parks, Too Good.
The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Yeah. start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really cared. I think you know.
Arlo Parks a interprété Too Good.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h51 et on s'intéresse ce matin à la transmission de la cuisine au sein des familles. Nous attendons vos témoignages au 01 45 24 7000. Gonelle Boulay, je m'adresse à la rédactrice en chef de Pomme d'Api, il y a peu d'Astrapi. La cuisine, c'est un formidable outil pédagogique. Hein, avec les enfants, on peut faire de la physique, de la chimie, des maths, de l'histoire, de la biologie, du français.
Ah oui, il y a plein de choses à faire. Avec les plus petits, rien que de lire, enfin de commencer à regarder la recette pour ceux qui commencent à lire, ça c'est super. Commencer à compter pour les tout petits, on compte les œufs, on peut commencer tout petit. Après, effectivement, tout ce qui est unité de mesure, règle de proportionnalité, c'est juste formidable. C'est-à-dire que notre recette, elle est prévue pour 4. Alors, en ça, j'aime pas les nouvelles applications très pratiques, mais qui fait qu'on a juste à taper le nombre de personnes et ça ne traduit tout. Ce qui est sympa, c'est d'avoir une recette pour 4 et de devoir la faire pour 8, pour 16, pour etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre à l'école, qu'on peut très bien apprendre avec la cuisine. Et j'adore ça.
Keda Black, auteur de Je cuisine pour mes petits-enfants.
Oui, il y a aussi la chimie de la mayonnaise. Enfin, faire prendre une mayonnaise, ça c'est un bon, c'est un bon exercice.
Très compliqué. Grégory Cohen, cuisiner avec ses enfants, cela permet également d'apprendre de ses erreurs. En cuisine, on essaie, on rate, on recommence avec au bout peut-être la réussite d'une recette qu'on a pas mal loupé auparavant.
Ah oui, et même sur la transmission, quand moi je prends la recette, on a la championne de la toute catégorie de la cuisine chez nous dans notre famille, qui s'appelle Tata Janine. c'est ma grande tante. Et alors du coup, Tata Janine, quand on l'appelle pour avoir la recette de la chouchouka, elle va nous dire tu mets, alors chouchouka c'est ce qu'on appelle une salade cuite, et donc c'est tomates, poivrons, etc. Donc elle va nous dire bah tu mets un peu de ça, puis tu mets un peu de ci, et puis tu laisses cuire. Il faut que ça caramélise, mais pas trop. Attention, pour casser l'acidité, tu vas mettre un peu de sucre derrière. Et en réalité, tu n'as absolument aucune mesure. Et du coup,
aucun temps.
Et c'est parti maintenant sur un espèce de concours de chouchouka de toute la famille pour savoir qui fait celle qui se rapproche le plus de Tata Janine.
Ouais. Allez, on écoute une note vocale laissée par Marie.
Bonjour France Inter. Alors moi, j'ai un problème de transmission avec ma belle-mère qui se débrouille toujours pour ne pas me donner ses recettes. Elle cuisine extrêmement bien. Mais par exemple, elle fait un merveilleux kouglof. Mais la dernière fois que je lui ai demandé la recette, elle m'a dit « Ah, j'ai juste pris la recette sur le paquet de levure. »
Faire la savange très
belle.
Sur la rétention d'informations.
Ça, c'est la rétention. Oui, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi il y a une grande légende selon laquelle les chefs auraient des secrets qu'ils gardent précieusement. Probablement que ça existe, comme il doit y avoir des humains qui retiennent et des humains qui partagent, sûrement. Mais en général, moi, les chefs que j'ai rencontrés sont d'une générosité exceptionnelle. Alors évidemment, c'est leur geste qui est impossible à transmettre. Et ça, c'est un métier. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y ait des secrets. Je crois que chacun fait du mieux qu'il peut et chacun apporte une transformation qui, à mon avis, est formidable. Et quand on parvient pas à faire la chouchouka de tante Tata Janine, eh bien justement, ça peut occuper trois générations.
Exactement.
Alors, et c'est très bien.
On a beaucoup parlé des Tata Janine, des belles-mères, des mères, des grands-mères, et les pères dans tout ça, dans cette transmission de cette cuisine, Baptiste Desmontiers, et les pères dans tout ça, des pères qui s'investissent de plus en plus en cuisine. Hein. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site Coolmag.
Ouais, effectivement, il y a des pères qui s'investissent. Je pense que les pères se sont peut-être un peu toujours investis. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus qui se disent qu'ils n'ont pas envie de servir des aliments transformés à leurs enfants. Enfin, ça, c'est mon cas, par exemple. On a une notion de voilà, de devoir bien nourrir nos enfants et de les éduquer et pas de passer par des plats tout préparés. Alors que moi, par exemple, je suis issu de la génération, j'ai 40 ans. Je suis issu de la génération des plats préparés. Donc oui, il y a une transmission. C'est très très important de transmettre. C'est très important de faire avec avec les enfants, de leur expliquer comment ça se passe et de leur montrer qu'en fait, ça peut être très simple. Nous, il n'y a pas de secret chez nous. Il y a le livre de ma mère. D'ailleurs, ma mère cuisine avec mes filles quand elle les a et je cuisine avec elle aussi. C'est jamais le même résultat. L'idée, voilà, c'est juste un petit peu de s'amuser, de transmettre et puis de participer. Et puis surtout d'avoir une bonne estime de soi. C'est-à-dire que quand moi j'ai pas le temps et que je suis obligé de passer par des plats tout préparés, je suis pas très fier le soir. Donc en fait, mettre la main à la pâte, c'est aussi reprendre un petit peu confiance.
Écoutons notre ami philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
Le plaisir de la gaufre devient un plaisir nostalgique. Alors c'est un plaisir paradoxal s'il en est, parce que la nostalgie, c'est plutôt un sentiment qui nous serre un peu le cœur. Vous savez, une mélancolie passagère qui nous ramène au passé, à ce temps béni d'une innocence ou du bonheur. Ces après-midi du mercredi ou du dimanche où nous allions au parc, ou bien à la fête foraine, ou bien sur la grand place, et où à l'heure du goûter nous croquions dans des gaufres plus grosses que nous et toujours débordantes de chocolat et de chantilly. Voilà, c'était l'émotion. Cette gaufre de l'enfance, eh bien, c'est l'étrange plaisir du souvenir du temps passé. Étrange toujours parce que le temps qui passe, ça nous effraie toujours un peu. Mais plaisir tout de même parce que, en plus du goût de la gaufre, eh bien, il y a le goût du bonheur. Et le bonheur a ceci de plus par rapport au plaisir que se le remémorer, eh bien, c'est encore le revivre.
Thibaut de Saint-Maurice dans Grand Main vous fasse en 2016. Kéda Black, une petite recette peut-être de gaufre liégeoise à réaliser avec ses enfants, petits-enfants. Votre recette?
Oui, moi je me suis convertie aux gaufres liégeoises. Ouais. Je trouve que quand on a un appareil à gaufres à la maison, je trouve qu'elle ça marche mieux que les gaufres classiques de justement des foires, etc., qui fonctionnent super bien quand il y a des appareils très très puissants. Ouais. Et donc je trouve qu'à la maison, alors bon, c'est une recette qui contient pas mal de beurre quand même. voilà. Enfin, en fait, plus on en met, meilleur c'est presque.
500 grammes de farine, de cuillère à soupe de sucre, 10 grammes de levure de boulanger, 2 œufs, 150 grammes de beurre, 20 centilitres de lait, 100 grammes de sucre roux en morceaux grossièrement écrasés, de l'huile pour le gaufrier. Et allez, on y va, on s'amuse avec les enfants.
On pétrit, on laisse reposer quand même. Ça,
une heure et demie, peu de temps. Une heure et demie.
Oui, parce que c'est avec de la levure de boulanger, ouais. c'est une pâte qui lève, comme une brioche en fait. En fait, c'est une sorte de pâte à brioche finalement. Et puis les petits morceaux de sucre, on prend du sucre en morceaux concassés, qu'on met dans la pâte et ça caramélise, ça fait des petits morceaux caramélisés.
Elle est pas liquide, hein, donc
vous inquiétez pas,
si elle est pas liquide, c'est normal.
Et on s'amuse avec les enfants. Tiens, je termine avec une petite sagesse que j'ai glanée dans votre court recueil, Père Lassalle-Schreiber, mes 77 secrets de vie. Garde toujours ta part d'enfant dans un tiroir secret. Tu l'ouvriras souvent chaque fois que tu trouveras la marche un peu haute pour sauter. Et c'est vrai que cet esprit d'enfance, on le conserve vraiment quand on a cuisiné avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes. Ça laisse des souvenirs absolument merveilleux. Merci à tous d'être intervenus dans cette émission.
Merci.
Vous pourrez
merci.
Retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. Demain, comment faire son arbre généalogique? Toutes vos questions dès maintenant en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.